Alors bonjour Fabien Béziat.
Bonjour Pierre-Louis, Jeanne Rémy.
Voilà, donc le grand jour arrive presque, enfin grand jour pour nous à Oloron. Ça sera le jeudi 2 octobre à 20h30 au cinéma Le Luxor, où on passera le film que tu as réalisé avec Hugues Nancy sur les femmes pendant la guerre 14-18. Mais avant de passer un petit peu au film lui-même, deux mots quand même sur tes origines. Tu es non seulement d'Oloron, mais tu es de ce quartier où il y a Radio Oloron. Ta vie oloronaise.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, je suis non seulement d'Oloron, mais de Sainte-Croix, ce qui est une particularité des Oloronais. Oui, j'ai vécu à Sainte-Croix jusqu'à l'âge de 17 ans, 18 ans.
À l'école, au Collège des Cordeliers ?
Au Collège des Cordeliers. J'étais d'abord à la primaire à Sainte-Croix. Et oui. J'ai fait toute ma scolarité. Et puis après, je suis parti faire des études à Toulouse de biologie qui ne m'ont pas trop satisfaite. Et j'ai fait après une formation pour travailler dans l'audiovisuel. Et puis j'ai fait une carrière de chef monteur et puis maintenant de réalisateur.
Voilà. Et tu es professeur aussi à Biarritz.
Alors j'enseigne, oui, aux Beaux-Arts de Biarritz, à l'école des Rocailles, depuis maintenant 7 ans, depuis l'ouverture de l'école. Et j'enseigne le cinéma et puis la théorie du cinéma aussi.
Alors comment tu es passé de la biologie à la cinématographie ?
Oh, je pense que c'est... Il n'y a pas forcément en fait de destination précise en fait. C'est-à-dire que la biologie, c'est juste parce que j'avais plutôt des bonnes notes au lycée et en fait c'était plutôt une continuité comme ça sans désir. Et puis et je me suis très vite rendu compte en fait que c'était pas ma voie. Et le cinéma, en fait, je pense que c'est venu, c'est un hasard heureux, comme on dit, en fait. Alors peut-être après, il y a des situations qu'il faudrait que je me remémore, mais je pense que c'est un hasard heureux, en fait. Voilà, j'ai trouvé ma voie par hasard, on va dire.
Mais tu étais déjà un peu passionné de cinéma ou non ?
Oui, j'allais au cinéma souvent, mais je peux pas dire que j'étais un passionné de cinéma. C'est-à-dire que je me suis très vite rendu compte que le cinéma, je le connaissais pas. C'est-à-dire que je connaissais effectivement le cinéma grand public et le cinéma du dimanche soir à la télévision, mais tout l'univers absolument gigantesque du cinéma de l'Europe de l'Est, les cinémas d'auteurs américains, le cinéma d'auteurs français, tout ce champ-là, je ne le connaissais pas. Donc il y a peu de pédagogie autour en fait de la réalité du cinéma.
Oui, tu as commencé en étant tu es surtout monteur.
Alors, en fait, j'ai été chef monteur pendant presque 16 ans, oui. Et donc j'ai monté énormément de films documentaires.
Et d'ailleurs, il est passé un film sur les fusillés, pour l'exemple, sur la chaîne parlementaire, et j'ai remarqué montage Fabien Béziat. Il est excellent,
fait,
d'ailleurs,
ouais,
ce film.
C'était il y a une dizaine d'années, ouais.
Oui, ils l'ont repassé la semaine dernière.
C'est passionnant, d'ailleurs. Non, mais oui, j'ai fait ça, et puis en fait, ce qui s'est précisé, c'est que j'ai très très très, très tôt travaillé sur des films d'histoire. Donc en fait la question de l'histoire c'est un peu aussi est venue avant moi en fait comme ça et je me suis passionné, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup travaillé et du coup voilà la question historique en fait a été très 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 proche. Puis après je me suis politisé aussi, ce qui fait que ma conscience politique en fait s'aiguisant, la question de l'histoire et du documentaire en fait c'est précisé.
Alors on peut citer quelques œuvres majeures qui sont passées sur France 2, sur FR3.
Alors j'ai fait plusieurs films depuis maintenant 5-6 ans, notamment deux films dont je suis assez fier que j'ai co-réalisé avec Pascal Convert sur le réalisateur Raymond Aubrac.
Sur Aubrac, oui.
Voilà, les deux films sont passés sur France 2 et France 5 respectivement. Ça a été pour moi vraiment très très important parce que côtoyer Raymond Aubrac, c'est quand même une force dans l'action et dans la probité du personnage qui est très très grande et ça m'a beaucoup beaucoup appris en fait, beaucoup de choses.
Beaucoup enrichi.
Beaucoup enrichi, ouais, vraiment très très fortement. Et il faut dire que ça renouait aussi moi avec mes d'un seul coup aussi avec un peu mon histoire familiale, c'est-à-dire que dans ma famille, il y a eu un grand-oncle qui a été déporté, qui a voilà, la question de l'engagement politique aussi était présente dans ma famille, donc c'est quelque chose c'est pas un hasard non plus. C'est-à-dire que même si c'est pas explicité, s'il n'y a pas de pédagogie dans la famille, il y a des fondamentaux comme ça qui passent, qui se relaient de façon inconsciente et c'est important.
Un travail important aussi sur Renault et Citroën.
Alors Renault et Citroën, ça c'était un film, ça a été le premier gros film en fait que j'ai réalisé seul, en écriture avec Hugues Nancy, qui est maintenant mon co-réalisateur sur ce sur ce projet. Ça a été une assez belle aventure en fait, parce que au départ le sujet ne me portait pas spécialement, parce que j'avais pas de désir particulier sur les voitures, mais quand j'ai découvert la vie respective en fait de ces deux personnes, ça a été assez important. Ouais.
Et leur rôle est incroyable.
Hein. Incroyable, ouais. Ouais, incroyable. Et puis et ça permettait en fait de raconter, on va dire, un demi-siècle, voire un peu plus, de l'histoire française, avec toutes les particularités à la fois politiques et sociales, économiques en fait du pays. Et c'était pas juste deux personnages, c'était deux personnages dans l'histoire.
Et puis on a vu cet hiver en prime time sur France 3, Paris en est folle.
Paris en est folle, voilà. Ça a été le deuxième gros opus en fait. Ça a été aussi un grand plaisir de travailler sur cette période. Puisque bon, là aussi c'est toujours pareil, c'est des films historiques avec quand même un engagement, on va dire, à la fois pédagogique et un peu de précision politique, et c'est ce qui moi m'intéresse, c'est-à-dire d'essayer de faire passer des choses avec des formes qui sont des formes adaptées effectivement à la télévision de grand public, comme on le dit. Je dis ça sans forme de péjoration, hein.
Bien sûr. Voilà. Et puis FR3, dans le cadre du centenaire, t'as demandé de faire un travail, de faire un film, mais finalement, sans préciser, t'as laissé le choix.
Voilà, en fait, donc suite à aux audiences, en fait, parce que ça marche assez comme ça, aux audiences en fait qu'on fait respectivement Citroën Renault et Paris en est folle, la chaîne qui a maintenant confiance et je pense apprécie mon travail, m'a proposé effectivement de faire un travail pour le centenaire du 14-18. Et c'est vrai que le centenaire, c'est l'opération en fait documentaire, et pas que documentaire, parce que dans toute la France, pendant 4 ans, il y a des événements de commémoration absolument partout. C'est plutôt bien d'ailleurs ce qui se fait. Il y a même une association qui est la mission centenaire en fait, qui a été constituée, qui est un label, on va dire.
Voilà, et nous sommes Trait d'Union, nous sommes labellisés, c'est pour ça qu'on est content d'avoir ton film, hein, bien sûr.
Voilà, et donc la mission centenaire en fait est... Et ce label, on va dire, de collège d'historiens, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs historiens, plusieurs médiateurs, en fait, qui ont plus ou moins décidé de la validité ou de la crédibilité, en fait, des projets.
Voilà, et toi, tu as choisi, ça ne m'étonne pas d'ailleurs, un thème qui avait été laissé en marge, c'est le moins que l'on puisse dire.
En fait, l'histoire, elle est plus précise que ça, c'est-à-dire que pour France 3, au départ, j'avais proposé de faire un film sur les mutins, c'est-à-dire que moi, c'était et notamment par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le fait que j'avais monté il y a 10 ans ce film sur les fusillés pour l'exemple, qui était une partie très importante, à mon avis, de l'histoire de 14-18, en fait, je voulais continuer cette histoire-là, c'est-à-dire essayer de voir aujourd'hui les nouvelles informations, l'ouverture des archives, les archives qu'on aurait pu éventuellement trouver. Et donc ça m'intéressait beaucoup en fait de faire un travail sur ceux qui avaient refusé la guerre. Parce qu'il y a, de façon absolument générale, en fait, l'idée de l'union sacrée, c'est-à-dire que tout le monde est parti à la guerre de façon immédiate et comme on a dit, la fleur au fusil.
En réalité, c'est plus complexe, oui.
Donc il y a des gens qui ont refusé, ça m'intéressait beaucoup, mais il y avait déjà quelqu'un en fait à France 3 qui faisait un film sur ce sujet-là.
Par exemple, Poggioli en Corse sur FR3 Corse a fait un excellent film qu'on va passer d'ailleurs dans le cadre de notre université du temps libre sur les fusillés en première ligne, c'est-à-dire les fusillés pour l'exemple Corse.
Ah oui, c'est très bien. Mais ça m'intéressera de le voir. Ouais. Et donc voilà, donc ce sujet étant pris, moi dans mes grandes lectures en fait, parce que pour tout travail préparatoire en fait de films documentaires, c'est énormément de lectures, c'est vraiment beaucoup beaucoup d'ouvrages pour avoir une vision à la fois précise et synthétique en fait des choses. Et je me suis rendu compte de quelque chose qui m'était pas paru évident au départ et qui a été éclatant pour moi. C'est que quand j'ai commencé en fait à faire des recherches juste bibliographiques, je me suis rendu compte que sur la question des femmes, en fait, il n'y avait absolument rien jusqu'aux années 70-80.
Une sous-catégorie, comme tu dis.
Ouais, voilà, c'était une sous-catégorie historique, c'est-à-dire qu'on considérait en fait que les femmes avaient eu une action dans la guerre, mais c'était une action domestique, en fait. Voilà. C'est-à-dire que la mémoire des femmes, c'était une mémoire de journal intime, une mémoire de liseuse ou de brodeuse. Voilà, c'était. Il y avait une grande péjoration autour de l'histoire des femmes. Et ça m'a très vite intéressé. Ou alors, ce qu'on trouvait, c'était à chaque fois, soit Matahari, soit l'espionne érotisée. C'est-à-dire que d'un seul coup, il n'y avait vraiment pas d'inscription en fait, historique des femmes sur la Première Guerre mondiale. Et c'est vrai sur la Deuxième Guerre mondiale aussi après, hein, c'est assez compliqué.
Voilà, et tu bouscules beaucoup d'idées reçues, là, justement, sur les femmes. Ça apparaît dans le film tout le long. Hein.
Ouais, bah, c'est-à-dire que, de façon assez commune, ce qu'on entend, c'est que effectivement les femmes se sont émancipées parce qu'elles ont pris la place des hommes au travail. Donc c'est ce qu'on a entendu, c'est ce qui est valorisé dans les livres d'histoire, c'est ce qui est plus ou moins acquis en fait dans l'histoire française. Et c'est évidemment plus complexe que ça, c'est-à-dire que si on fait un peu une précision à la fois historique et politique, et après il y a des grandes, grandes historiennes, et c'est des historiennes qui est très intéressant, qui ont pris en main l'histoire des femmes, en fait il y a eu des ouvrages absolument magnifiques.
Oui, et tu t'es fait, d'ailleurs, il y a un expert qui a travaillé avec, une experte qui a travaillé avec
oui,
vous, c'est Françoise Thiébaud.
En fait, qui est une historienne vraiment spécialiste voilà. En fait, de la question de la représentation des femmes dans l'histoire, à la fois sociale et politique. Et donc elle est effectivement elle nous accompagne sur nos projets. Et là en fait ce qui c'était très étonnant en fait c'est que d'un seul coup il y avait une absence en fait de représentation historique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de récit qui avait été fait, et pourtant l'action des femmes a été considérable. C'est-à-dire que très très tôt il y a eu énormément de soldats qui sont partis au front. Il y a eu la nécessité absolument évidente en fait que les femmes prennent des places au travail, mais pas que dans les usines, c'est-à-dire dans la société civile. Et en fait, on n'a pas raconté cette histoire-là. Et après-guerre, toutes les petites effectivement situations où des femmes, par exemple, dans certaines administrations, ont eu la nécessité de prendre des postes, elles ont été, mais dans les semaines à venir, en fait,
elles sont revenues au fourneau.
Il fallait retourner au fourneau, voilà. Et ça, dans un contexte en fait qui est très précis, c'est que 14-18 s'inscrit dans la continuité des grandes batailles de la séparation de l'Église et de l'État. Donc en fait, on est dans une France qui est une France très rurale, ce qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on n'a pas du tout une vision, et je pense que c'est encore la réalité aujourd'hui, même si on a une vision toujours citadine et dynamique en fait des villes. La France de 14 est une France rurale. Et les femmes en fait, voilà, étaient très très liées en fait au catholicisme d'époque. L'Église avait une importance importante, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. La société a changé, et il y a eu comme ça une continuité en fait de ces questions effectivement du rapport au catholicisme en fait qui était grand et du rapport aussi aux femmes, aux mères, à la famille.
Oui,
des fondamentaux quoi.
Tu insistes sur le fait qu'il y a eu rupture aussi, rupture parce qu'avant la Première Guerre mondiale, il y avait un mouvement important ce qu'on appelait les suffragettes. Ce ouais. mouvement a été cassé pratiquement pendant la guerre 14-18 et il a eu du mal à reprendre puisqu'on les femmes n'ont obtenu le droit de vote en France, ce qui est incroyable qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
En 44, oui. Et là, ça c'est une partie très intéressante. C'est-à-dire qu'on se rend compte, par exemple, qu'à niveau social équivalent, c'est-à-dire entre hommes et femmes, le niveau d'éducation en fait est à peu près équivalent, ce qui est absolument impensable en fait. Moi, je pensais pas du tout ça. Et il y a aussi des mouvements d'émancipation, là pour le coup politique, avec le mouvement des suffragettes, mais pas que. Il y a eu plusieurs mouvements, il y a eu des ligues, il y avait beaucoup de conventions en fait des femmes, et c'était surtout dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire au Canada, en Angleterre, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Ça a été en Belgique, c'était très présent. Et au moment de la guerre, en fait, il y a eu un retour qui était très très grand, c'est-à-dire que dans tous les pays, et notamment en France, de façon très très particulière, il y a eu la question de l'union sacrée. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il fallait absolument que la société nationale entière s'inscrive ou adhère en fait à la question de l'engagement dans la guerre. Et beaucoup de féministes, en fait, se sont engagées auprès de l'union sacrée, c'est-à-dire que on remisait un peu la question de l'émancipation et de l'internationalisme féministe et sont rentrés avec un même élan en fait dans l'idée que la guerre était juste et qu'il fallait accompagner les soldats. Donc il y a eu une régression en fait du mouvement, ce qui fait que mais les pays où l'émancipation était forte avant guerre,
l'Angleterre par exemple,
voilà, l'Angleterre ou par exemple la Nouvelle-Zélande ont eu le droit de vote beaucoup plus tôt que la France
en 1928 pour l'Angleterre par exemple.
Voilà, alors ça, je crois que c'est 21 pour la Nouvelle-Zélande.
Alors ça c'est les thèmes du film, mais tous les deux, avec Nancy, vous avez fait un film palpitant. ça on le sent à la fin, hein, bien entendu, ce que nous sommes en train de dire, qui est rythmé par des personnages féminins tout à fait exceptionnels, avec le texte d'une écriture, je crois que c'est plutôt une ancienne, ou tous les deux, splendide, hein, vraiment.
Qui est à l'œuvre sur l'écriture. Ouais.
Et puis adapté par Nathalie Baye, et qui est dit d'une façon merveilleuse. Hein,
on a eu de la chance que Nathalie Baye accepte de faire ce film, parce que c'est une actrice qui est juste et intelligente. Donc en fait, le texte est intelligemment dit. Et ça se sent dans le film, en fait. Donc ça, c'est très très bien. Je suis très heureux de ça.
Voilà, parlons des matériaux maintenant. Les archives, il a fallu les trouver un petit peu partout. Et toi, ton travail sur les archives, c'est plusieurs mois, presque un an.
Ah oui, c'est assez long. La préparation d'un film, entre le moment en fait où on décide de faire le film, le moment où en fait il y a une première écriture, c'est-à-dire les étapes de lecture, la première écriture, après le développement en fait de ce qu'on appelle un synopsis, c'est-à-dire de l'écriture à peu près complète en fait de orientations dans le film, de l'engagement, plus la recherche archive, plus le montage, plus les finitions, c'est absolument dingue en fait. Le travail, ça prend pratiquement 2 ans en fait de faire le film. Donc et la recherche archive a été très très importante. Moi, je travaille en fait avec deux jeunes recherchistes qui s'appellent Charlotte Delupé et Amélie Souris, qui sont vraiment très 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 engagées et très très fortes. Et d'ailleurs, pour le film, ce qui est très bien, c'est que pratiquement toute l'équipe, en fait, parce que évidemment, on n'est pas deux seuls à faire un film, sont des femmes. C'est-à-dire qu'il y a un producteur, il y a une productrice, et après tout le reste, c'est des femmes sur le film. Et qui ont eu un engagement, elles se sont senties concernées en fait, réellement. C'est-à-dire que c'est pas juste un film de plus, c'est que d'un seul coup, elles se sont plus qu'intéressées, c'est-à-dire que ça leur parlait en fait d'elles-mêmes. Parce que le film, ce que je veux dire, qui est très très important pour moi, c'est que ça sert à rien de faire un film de plus si c'est du musée, même si j'ai un grand respect pour le musée. C'est-à-dire qu'il faut que les films en fait aujourd'hui puissent nous dire quelque chose de notre époque aussi. Et je crois que c'était l'engagement, c'est-à-dire faire un film sur 14 qui puisse aujourd'hui en fait remettre en perspective la situation de la parité, par exemple, dans la société civile, c'est très très important. C'est-à-dire que et je crois que le film en fait répond à ça. C'est-à-dire qu'il y a une interrogation en fait de se dire 100 ans plus tard, en fait, on n'a pas beaucoup bougé.
Alors justement, c'est ce qui fait la beauté de ce film, hein, c'est qu'il est scandé par des portraits de femmes, mais des portraits de femmes qui ont écrit. Donc Nathalie Baye reprend évidemment ce qu'elles ont dit. Hein, donc, mais en même temps, ces femmes ont eu un rôle collectif. On va en prendre deux ou trois exemples, hein, bien entendu. Tiens, par exemple, prenons une étrangère qui est à Paris, qui est romancière, qui est contente de vivre à Paris, Edith Wharton.
Alors, Edith Wharton, alors c'est une romancière extrêmement connue à l'époque. C'est-à-dire que c'est une fille d'une très grosse famille en fait industrielle américaine, qui a décidé en fait, qui a voyagé un petit peu partout en fait. Elle a voyagé partout en Europe avec ses parents, et elle est très c'est une jeune femme qui est de la haute aristocratie intellectuelle. Elle côtoie les grands écrivains de l'époque, elle anime des salons littéraires, elle tombe amoureuse de Paris parce qu'évidemment avant-guerre, Paris c'est le berceau, même si on le dit de l'entre-deux-guerres, c'est le berceau en fait de la culture
à l'époque,
à l'époque européenne. C'est là où en fait tous les artistes, c'est là où il y a Picasso, il y a Paul Valéry, il y a André Gide, il y a vraiment tous les grands auteurs de l'époque, et il y a une émulation qui est très grande.
Elle est dans un petit paradis et les Allemands arrivent, on va lui détruire son paradis, quoi.
Voilà, et au moment de la guerre, en fait, Edith Wharton en fait a une conscience aiguë en fait de la paupérisation et de la misère des femmes. C'est-à-dire qu'effectivement, quand spontanément en fait un mari part au travail, il n'y avait pas d'un seul coup, du jour au lendemain, des allocations familiales, des aides immédiates, et c'est en 3 jours, il y a des femmes qui se retrouvent dans une précarité absolue, parce qu'en fait elles peuvent pas ramener de l'argent, elles n'ont pas de travail, elles nourrissent les gosses. Et Edith Wharton en fait, qui est extrêmement fortunée en fait, va mettre en gage une grande partie de son argent pour aider.
Une action, l'action humanitaire.
Ah oui, totalement. C'est-à-dire que elle est même à l'origine.
Elle est une ONG à elle toute seule.
À toute seule. C'est-à-dire qu'elle est même à l'origine de l'aide humanitaire. C'est-à-dire que Edith Wharton, à cette période-là, en fait, elle crée des hôpitaux, elle crée des ouvroirs où elle donne du travail à des jeunes femmes, elle fait des orphelinats. C'est extrêmement concret, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une conscience politique chevillée au corps, et qui, d'un seul coup, se rend compte de son privilège, et que son privilège, il est indécent, selon elle, en fait, de le traverser sans se rendre compte, en fait, de cette situation, qui est une situation catastrophique.
Prenons un deuxième exemple français, exceptionnel, évidemment, mais très collectif, Marie Curie.
Oui. Alors, Marie Curie, alors, c'est très, très intéressant. Alors, tu dis français, mais Marie Curie est polonaise.
Oui, bon. Elle vit en France, donc.
Non, mais c'est important parce que je le rappelle juste parce que dans la mémoire, dans la mémoire de ce qu'est en fait l'histoire française après l'affaire Dreyfus, dans ce début d'époque, une polonaise juive,
polonaise et juive.
Voilà, qui est doublement en fait double prix Nobel en fait de physique et qui en fait d'un seul coup. Revendique en fait son appartenance au patriotisme français, mais pas un patriotisme nationaliste, un patriotisme, c'est-à-dire qu'elle est engagée par rapport en fait au sort des soldats, et elle est ulcérée par les douleurs en fait des soldats qui arrivent, qui reviennent du front. Les blessures sont absolument atroces.
Et ils sont souvent amputés justement.
Ils sont amputés. C'est vraiment c'est une guerre en fait aussi, ce qu'il faut dire. C'est que c'est l'une des premières guerres modernes avec des situations qui sont intenables, c'est absolument terrible. Et Marie Curie, elle, qui en fait depuis des années, et on la connaît pour ça en fait, a fait des recherches sur les rayons X et sur le radium, en fait met au point, bon c'est pas tout à fait elle qui met au point parce qu'il y a d'autres pays en fait, notamment aux États-Unis où en fait ils ont mis au point les rayons X, mais c'est quand même grâce à ces avancées en fait sur le radium. Elle va s'engager directement avec sa fille, c'est-à-dire qu'elle va mettre en place des ambulances sur les champs de bataille, où en fait elle va faire des radios, et elle va sauver énormément de vies, parce que...
La radio portable, quoi.
La radio portable, c'est-à-dire que d'un seul coup, quelqu'un qui arrivait avec la jambe ou le bras en lambeau, on pouvait lui faire une radiographie de suite, et on pouvait voir de suite s'il fallait effectivement amputer ou pas amputer. La réalité de quelqu'un qui arrive après un combat ou un assaut, c'est-à-dire que c'est des centaines de gars qui sont par terre, et puis on décide de sauver les plus rapidement opérables. C'est la réalité, c'est-à-dire que un soldat en fait qui a où il faut amputer le bras, ça prend 5 minutes d'amputer un bras. Un soldat en fait où il faut recoudre le thorax. Alors je suis un peu trivial, mais c'est la réalité. Des fois, il faut mettre des images aussi sur une situation. On les laisse mourir parce qu'en fait, ça prend trop de temps. Et en 4 heures, on peut sauver 10 personnes. Et Marie Curie en fait a permis de sauver énormément de gens. Et ça a été très très important en fait son travail.
Alors prenons un troisième exemple qui me tient un peu à cœur, Blanche Maupas.
Oui. Alors Blanche Maupas, c'est la continuité en fait des Fusillés pour l'exemple. Donc les Fusillés pour l'exemple, je rappelle rapidement, c'est-à-dire que il y a eu des situations et dès 14 en fait, parce que les combats ont été très 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 violents dès 14, dès août 14 en fait. Il y a eu des situations en fait où il y a des soldats justement qui ont eu peur, qui ont refusé en fait de monter au combat. Et c'est pour ça que ça a été très compliqué.
Les conditions de la guerre ont fait qu'à un moment donné, ils ont refusé de monter au combat.
Alors c'est ça, et après c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire que je vais aller très, très, très rapidement, mais c'est important.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a effectivement des fois des assauts où les gars, il faut voir, ils ont 19 ans, 20 ans,
ils sont envoyés
ils montent au front, il y a 50 bonhommes à côté d'eux qui sont massacrés. Il y en a qui ont eu peur et pour ne pas démotiver en fait la troupe, pour qu'il n'y ait pas de contamination en fait de démotivation, les officiers français ou les généraux français ont décidé de faire des exécutions sommaires. C'est-à-dire qu'ils ont pris au hasard des soldats qui n'ont pas voulu monter au combat et ils les ont fait fusiller. Et Blanche Maupas, c'est la veuve en fait d'un soldat qui s'appelle Théophile Maupas, qui lui en fait a été fusillé alors qu'il n'avait pas refusé de monter au combat. C'est-à-dire que Théophile Maupas, lui a été pris parmi tout son régiment, et puis il a été pris au hasard pour faire un exemple. Et sa veuve en fait a passé sa vie en fait à vouloir le réhabiliter parce qu'elle trouvait ça absolument sidérant. Et il faut voir qu'en France encore aujourd'hui, les politiques ne se sont pas mis d'accord sur la réhabilitation en fait des fusillés pour l'exemple. C'est-à-dire que pour beaucoup, pendant des années et des années, des dizaines d'années, c'était considéré comme une honte nationale en fait de refuser d'être patriote et de remonter au combat, et alors que c'est pas aussi simple que ça. Voilà.
Prenons l'exemple aussi dernier d'Edith Conwell, je crois, qui a fait la guerre comme les hommes finalement, puisqu'elle était espionne et qu'elle a été fusillée.
Oui, alors attends, c'est de tu veux dire laquelle? Je n'ai pas compris.
Une anglaise, je crois, je n'ai pas bien écrit le nom. Edith Cavell ou...
Alors non, c'est Edith Cavell, oui.
Edith Cavell.
Alors Edith Cavell, c'est... Edith Cavell, c'est un symbole, en fait. Edith Cavell, c'était effectivement une infirmière belge.
Belge, oui.
Qui, elle, en fait, a été dans un réseau où, en fait, elle a permis de passer des messages et permis de faire évader des agents, en fait. Et Edith Cavell, elle a été de suite, tuée par les Allemands. Et elle est devenue un symbole, en fait, parce que c'était une infirmière qui avait... un courage absolu et qui n'avait pas non plus un militantisme qui permettait de l'identifier par rapport à un bord politique particulier. C'est-à-dire que c'était vraiment la bonne personne qui d'un seul coup faisait son action parce qu'en fait elle considérait que la situation était inique et elle a été fusillée. Il y a beaucoup de jeunes femmes en fait qui ont été dans des situations comme Edith Cavell. Hein. Il y en a eu beaucoup.
Alors dans les rôles de groupe, on va en prendre deux, il y en a beaucoup hein, bien sûr dans le film. Prenons les munitionnettes hein, qui ont oui. joué un rôle capital.
Oui, alors les munitionnettes, c'est là où le film en fait dit des choses qui je pense ne sont peu dites par rapport à l'émancipation justement. Alors les munitionnettes, ça a été très très important, c'est-à-dire que c'était ces jeunes femmes en fait qui de 8h du matin à 11h du soir... mettaient de la poudre dans les obus et fabriquaient des obus pour l'armée française. Et les munitionnettes, en fait, ont été utilisées alors vraiment, je veux dire, moi, comme un sous-prolétariat.
Et exploitées, on peut dire, hein,
sous-payées. Voilà, moins que les hommes, elles faisaient des horaires absolument dingues. Et elles ont contribué, effectivement, très fortement... à soutenir l'effort de guerre, ça c'est indéniable.
On va en prendre.
Les conditions étaient terribles.
On va prendre un autre bizarre, les prostituées dont tu parles dans le film.
Alors ça,
elles ont joué leur rôle aussi, hein, finalement.
Oui, c'est comme dans toutes les situations en fait. À partir du moment où il y a des garnisons, il y a beaucoup d'hommes en fait qui se retrouvent dans une situation et évidemment il y a toujours de la prostitution. Là, je suis en train de lire sur la Deuxième Guerre mondiale, c'est exactement la même chose partout. Et les prostituées ont joué un rôle aussi important. Alors, il y avait plus ou moins, parce que c'est très intéressant, parce qu'il y a dans le film, c'est un peu sibyllin, on parle des marraines de guerre. Les marraines de guerre, en fait, c'était des jeunes femmes, en fait, ou des femmes qui, d'un seul coup, devenaient des correspondantes, en fait, avec les soldats.
Qui envoyaient des colis aussi.
Ouais, des colis. Et il y avait des associations, en fait, qui étaient des associations un petit peu philanthropiques, où les bonnes femmes de la bonne société, en fait, entretenaient ces correspondances épistolaires avec les soldats. Et très, très rapidement, en fait, dans beaucoup d'endroits, les marines de guerre sont devenues des amantes épistolaires et, à certains moments, des prostituées épistolaires. Et donc, il y avait déjà des caricatures à l'époque pour caricaturer, voilà, pour dire, ben voilà, ces marines de guerre qui prennent l'habit, en fait, de la bienséance et puis de la philanthropie, on va dire, bourgeoise, parisienne, en fait, des fois cachée des mœurs un peu frivoles, on va dire. Mais bon, ça fait partie, c'est assez connu, hein, tout ça.
Voilà, ton film avec Hugues Nancy,
oui.
Quand on le regarde, bon, il est palpitant, ça passe très vite, on apprend plein de choses, on comprend tout, et du coup, on peut dire qu'il est, c'est Valo Belkacem qui l'a dit d'ailleurs, qu'il est très pédagogique, mais dans le sens noble du terme.
Oui, oui, bah, c'est un peu
le but.
Oui. Oui, c'est-à-dire que... moi, j'ai fait une présentation, par exemple, à Paris, dans un lycée. Il y avait eu l'organisation comme ça. Après la diffusion à l'Élysée, le lundi d'après, en fait, il y a eu une projection dans un lycée, technique, en fait, à Paris, avec la ministre Paul Angevin, en fait.
Et, oui,
oui. Et ce qui était très étonnant, c'est que, très franchement, des jeunes adolescents, en fait, qui regardent un film... aujourd'hui d'histoire en fait très 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 souvent au bout d'une demi-heure ça vraiment bah
les captive obligatoirement
hein. Ils
ne peuvent pas ils ne peuvent pas penser à autre chose je crois regardant ce film.
Les jeunes gens et c'est ce que la discussion que j'ai eue après avec eux reconnaissent une mère, une sœur, une grand-mère ils reconnaissent
se sentent impliqués.
Voilà, une situation actuelle aujourd'hui.
Oui.
De mères qui soit travaillent pour un tarif plus difficile, soit de mères isolées qui galèrent parce qu'elles gagnent 800 euros par mois. C'est la réalité de millions de Françaises aujourd'hui. Donc, Donc ce film-là fait écho à ça, effectivement.
Voilà, donc un film excellent, pédagogique, que tu vas présenter au Luxor. Tu as déjà présenté un film au Luxor ?
Non, c'est la première fois.
Alors c'est la première fois que tu retournes dans le cinéma que tu as fréquenté dans ta jeunesse.
Voilà, c'est ça.
Ça me fait plaisir de t'y faire revenir et d'avoir un petit peu d'émotion, sans doute. Donc on rappelle que tu seras là, bien sûr.
Oui.
Mais aussi, ton copain sera ton aide, ton co-réalisateur sera là. Qu'est-ce qu'il a de spécifique, lui ? En quoi il te complète si bien ?
Bah, en fait, il a...
Et comment on peut travailler à deux ?
On travaille à deux, parce que déjà, on a une communauté de goût, d'esprit, d'engagement, on se complète. Et puis après, on se complète très bien, c'est-à-dire que Hugues, lui, a une qualité d'écriture qui est assez...
exceptionnelle.
Assez grande, et donc du coup, voilà, même si on fait un travail préparatoire au départ ensemble. C'est lui qui donne, on va dire, la finesse et la justesse en fait, du texte. Et moi, j'ai un rapport à l'image qui est de longue date, donc en fait, on s'agence très bien, c'est-à-dire que on se donne l'un et l'autre en fait un regard et puis chacun dans notre partie en fait on construit les choses ensemble et voilà, mais c'est bien, deux c'est bien pour travailler.
Voilà, et vous serez tous les deux présents donc pour tout présenter le film et ensuite pour animer la discussion et répondre aux questions des auditeurs. Mais j'ai senti, tu me l'avais déjà dit d'ailleurs, mais tu l'as un peu dit en parlant du film sur les femmes en 14-18, que tu prépares la suite vu la réussite du premier.
Bah en fait, oui, là, du coup, on est avec Hugues en train de... Là, je suis en plein travail, hein, je suis en train de parce que le film, il faut qu'il soit diffusé en 2015. On prépare en fait sur la même question en fait en 39-45, c'est-à-dire que les femmes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors au départ, c'est quelque chose que j'avais pas envie de faire, je te le dis franchement, parce que je me méfie en fait des réussites et des suites. Et après, en lisant beaucoup, je me rends compte que c'est...
C'est différent en même temps. Hein,
c'est différent, c'est assez... C'est aussi passionnant en fait que pour 14-18. C'est beaucoup plus violent. C'est-à-dire que même si une violence quotidienne, sociale, harassante, enfin, à 14-18, là, en 39-45...
Si on pense aux Juifs, surtout. Hein.
Voilà, il y a une violence systématique des femmes qui est absolument sidérante. Ouais. Et donc, je pense que ça va donner une lecture de cette période-là aussi assez inattendue. C'est-à-dire que je pense que, d'un seul coup, on va voir ce que c'est une société qui se fascise, en fait. Et par rapport à des fondamentaux qui sont la question familiale, la question de l'éducation, la question des inadaptés, la question des contrôles des naissances, des contrôles en fait de l'handicap. Voilà, parce qu'il y a tout le nazisme, mais il y a aussi la Révolution nationale en France, en Italie, en Espagne. Et là, en fait, c'est visible. C'est-à-dire que ce qui est absolument sidérant, c'est qu'à la lecture et au regard en fait des images que je peux trouver, c'est qu'il y a des fondamentaux du fascisme, et ces fondamentaux passent par une mythification de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a une très très grande historienne en fait, qui a écrit un livre qui est excellent, qui s'appelle Le Vichy, l'éternel féminin, qui dit que dans une période de crise absolue, comme celle qu'on a connue en 39-45, il y a la nécessité en fait de créer le mythe, de continuer en fait de créer le mythe. Et le mythe, à cette période-là, c'est de dire que les femmes, elles ont un sens naturel des choses. Donc c'est qu'elles ne s'inscrivent pas encore dans l'histoire, qu'elles ne s'inscrivent pas politiquement et qu'elles doivent rester à la maison, faire des enfants pour la nation. Et des enfants qui sont le sel de la terre. Et le sel de la terre, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'ils soient juifs, qu'il ne faut pas qu'ils soient étrangers. Donc tout ça est très, 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 très dur, en fait. Et le film va montrer tout ça.
Dernière question. Le titre est significatif. Qui l'a trouvé, le titre ?
Oh, ça c'est...
Elles étaient aussi en guerre, donc voilà, il n'y a pas que les hommes, quoi.
Ouais. Assez rapidement. Non, je me rappelle plus de la généalogie de la découverte du titre, mais ça c'est venu très rapidement.
Merci, ouais. Merci Fabien. On se retrouve donc avec Hugues Nancy le 2 à 20h30 au cinéma de ta jeunesse, le Luxor à Oloron-Sainte-Marie. À très bientôt.
Avec grand plaisir.
À très bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir.